Et avec vous, Lise, dans À la Une en Israël ce matin, et pas qu'avec vous, avec notre invité Raphaël Jérusalmi, ancien officier des renseignements militaires de Tsahal, on va faire un premier bilan des frappes américaines sur les installations nucléaires en Iran. Je vous laisse, bien sûr, en compagnie de Raphaël Jérusalmi.
Raphaël Jérusalmi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Donald Trump affirme que les sites nucléaires iraniens ont subi des dommages monumentaux. Qu'est-ce qu'on en pense en Israël, Raphaël ?
On les croit. C'est facile de vérifier les dommages. Il suffit d'envoyer des mini-drones d'espionnage qui aillent regarder un petit peu de plus près comment les choses ont tourné. Il y a des images satellites. Il peut y avoir des indicateurs sur place, donc normalement, après plus d'une journée, on est quand même au courant de ce qui a été fait ou pas fait. Mais c'est pas véritablement important, parce que on peut toujours repasser une deuxième couche. Ce qui importe, c'est le message. Le message, c'est aux Iraniens qui prétendent avoir, par exemple, encore de l'uranium enrichi ailleurs, c'est si vous continuez à toucher au programme nucléaire, on vous tapera dessus. Et c'est pas nécessairement les Américains, parce que maintenant, à Fordo, par exemple, qui était une base très difficile à atteindre, le travail a été fait, et s'il y a encore quelques retouches à faire, l'armée de l'air israélienne peut les faire. Le gros du travail est fait, s'il faut encore détruire quelque chose. Mais je peux vous garantir que, de par le choc même tectonique des bombes qui ont été jetées sur Fordo, ça a créé un souffle tel, un tremblement de terre tel, que ça a tout détruit. D'ailleurs, on savait par les renseignements que dans cette zone qui est toute sismique, où il y a souvent des tremblements de terre, les Iraniens n'avaient pas tellement pris les mesures nécessaires par rapport à ça. Et que donc les souffles des bombes suffisaient déjà à créer un choc suffisant pour tout détruire.
Je vous pose la question, Raphaël Jérusalmi, parce qu'il y a une espèce de querelle d'experts avec des gens qui disent que le site souterrain contenait tellement de centaines de centrifugeuses cachées profondément qu'on ne pouvait pas savoir vraiment le niveau des dégâts. Et puis également parce que on parle également du fait que les Iraniens auraient eu le temps de transférer l'uranium enrichi leur stock dans un autre endroit avant l'attaque de ce week-end.
Alors, c'est vrai pour ce qui est de l'uranium enrichi, ils en ont certainement planqué ailleurs, comme on dit. Pour les centrifugeuses, il faut savoir que les centrifugeuses, c'est un matériel extrêmement fragile, extrêmement sensible. Un arrêt d'approvisionnement en électricité ou des secousses importantes suffisent à mettre hors service ces appareils extrêmement sensibles.
Alors l'aviation israélienne, elle continue ses frappes contre l'Iran et notamment dans l'Ouest, Raphaël Jérusalmi, pour notamment essayer d'avoir tous les lanceurs de missiles peut-être. C'est une des priorités d'Israël.
Oui, pour nous le travail n'est pas fini. On savait qu'on aurait besoin en cours de route des bombardiers américains. On les a eu, merci. Mais tous les objectifs ne sont pas atteints. Le nucléaire, c'est plus ou moins atteint. Parce qu'on oublie qu'en dehors de la destruction des grandes centrales, on a détruit tout ce qu'il y avait autour sur le plan de la production de beaucoup d'éléments indispensables au nucléaire, et on a surtout supprimé les cerveaux. Donc il n'y a plus des grands scientifiques qui étaient dans les postes clés du nucléaire. Tout ça mis ensemble, je peux vous assurer que le programme nucléaire iranien ne se porte pas très bien. Sur le plan balistique des missiles, ça c'est beaucoup plus problématique, car c'est la menace qui avait toujours été présente et imminente. Le nucléaire, on n'était pas encore prêt. Les missiles balistiques, ça, ce qu'il faut surtout, c'est d'abord empêcher les Iraniens d'en produire, d'en fabriquer, mais également d'en recevoir. Et puis sur place, et de tout simplement, la nuit dernière, on a eu une alerte d'un seul missile. Un seul missile a été tiré d'Iran vers Israël, et ça a réveillé 3 millions de personnes. Donc, avec un seul missile, ils peuvent perturber la vie des Israéliens et l'économie israélienne. Il faut donc, c'est l'objectif, une fois qu'on aura fini de détruire ces rampes de lancement et ces ateliers de production, on aura, du côté israélien, atteint l'objectif et on peut s'arrêter là. pas de changement de régime, pas de guerre d'attrition, encore d'après de salle, encore une semaine ou deux, et on aura terminé cette partie-là du travail.
Alors justement, Rafael Jérusalemi, la population israélienne, la vie est difficile pour elle parce que ça fait déjà un certain nombre de nuits au minimum depuis le début de l'opération Rising Lion le 13 juin qu'elle ne dort pas. Et vous le disiez, avec un seul missile, elle continue à ne pas dormir. On est passé d'une centaine de missiles à chaque barrage à 20-30. Mais si effectivement ça va être un par un, ça peut durer longtemps.
Ça peut durer longtemps. On ne sait pas si c'est une stratégie, d'ailleurs, ce missile solitaire. On a déjà eu ça une ou deux fois hein, dans cette guerre-ci. Mais ce missile solitaire pourrait être aussi le fait d'un commandant local qui prend l'initiative. Parce que n'oublions pas que la chaîne de commandement et la chaîne de communication de l'armée iranienne et des gardiens de la Révolution sont extrêmement perturbées et qu'il se peut que quelqu'un prenne une initiative personnelle. Donc, il faut voir s'ils vont continuer à tirer ce missile solitaire plusieurs fois. Auquel cas, on comprendra qu'il s'agit d'une stratégie pour fatiguer les Israéliens, qui ne fatiguent pas malgré tout. C'est embêtant, c'est pas agréable, mais les gens marchent. Moi, mes petits-enfants, ils se dirigent vers l'abri comme des zombies. Hein, ils en dorment pratiquement. C'est vrai, mais on tient le coup.
Alors, le Hezbollah, de manière assez surprenante, disait ce matin qu'il n'entrerait pas en guerre avec Israël après un certain nombre de menaces ce week-end. Ça vous étonne, Rafael Jérusalemi, ou c'est juste qu'ils ne sont pas en état d'entrer en guerre contre Israël?
Ben, ils sont pas en état et je pense que s'ils s'y mettent, ça leur coûtera tellement cher que peut-être qu'il faut souhaiter qu'ils nous attaquent parce que dans ces cas-là, les Libanais, le gouvernement libanais, ne nous empêchera pas de frapper encore plus fort. De la même chose que nous souhaitons que les milices chiites iraniennes attaquent les bases américaines pour que les Américains entrent véritablement dans le conflit. On peut le souhaiter et l'espérer parce que les Iraniens, j'ai l'impression, vont aller droit dans le mur, ne vont pas admettre la défaite, ne vont pas s'asseoir à la table des négociations et vont vouloir prendre leur revanche parce que l'orgueil iranien est tel qu'ils ne pourront pas concéder la défaite. Et donc là, il faudra effectivement les annihiler et comme l'a dit Donald Trump, mais aussi Yossi Cohen, l'ancien chef du Mossad, c'est le moment rêvé, si jamais, eh bien, de changer de régime.
Justement, ces milices pro-iraniennes en Irak, elles disent qu'elles ont commencé à préparer une riposte contre l'attaque américaine. Elles ont beaucoup d'armement, Rafael Jérusalemi, ces milices?
Oui, ils ont des missiles, ils ont des drones, des roquettes, ils sont très bien équipés. Ils ont beaucoup d'argent qui leur tombe de l'Iran et du Qatar. Parce qu'on a tendance à oublier que tout ça, c'est beaucoup d'argent du Qatar, hein. Et ils sont capables effectivement de nuire aux intérêts américains en Irak. Le gouvernement irakien tente de les en empêcher parce qu'il n'a pas vraiment envie de se frotter aux Américains et à Donald Trump surtout. Les Américains en Irak sont pas beaucoup, hein. Il y a 2500 soldats sont prêts. Les diplomates ont été évacués. 2500 soldats qui sont prêts, qui ont des abris importants, qui ont des défenses. Mais en Irak, justement, c'est là qu'il y a le moins de forces américaines sur le terrain et qu'ils sont le moins équipés par rapport à d'autres bases plus importantes où il y a à peu près une dizaine de milliers de soldats et des défenses antiaériennes, etc. Donc, on va voir si les chiites, les milices chiites rentrent en action ou pas. Il nous reste aussi les Houthis du Yémen, bien sûr, qui menacent aussi de tirer à nouveau des missiles sur les intérêts même américains en mer Rouge.
Justement, ma dernière question, Rafael Jérusalemi, le département d'État américain a même émis un avertissement mondial à tous ses citoyens. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à des attentats, peut-être, contre des intérêts américains ou des Américains tout court?
Oui, évidemment, des juifs et des intérêts juifs. Mondialement, il est certain que les Iraniens vont tenter de recourir au terrorisme dans les grandes villes du monde entier, en prenant des cibles molles, hein, ce qu'on appelle des cibles molles. C'est pas même nécessairement des diplomates ou des gens, des fonctionnaires qui savent un peu comment se conduire face à cette menace-là, qui sont protégés. Ça peut être des professeurs d'université, ça peut être des rabbins. Voilà, donc c'est extrêmement dangereux. Je rappelle que dans chaque ambassade américaine, pardon, dans chaque ambassade iranienne, à Bruxelles par exemple, vous avez des armes, des explosifs, et la moitié du personnel sont des espions du gardien de la Révolution. Ils ne servent à rien du tout sur le plan diplomatique. Ils recrutent la jeunesse musulmane de Molenbeek et compagnie pour avancer leurs intérêts islamistes de l'ambassade même à Bruxelles, mais aussi à Paris, Londres ou ailleurs. Ils sont très organisés et ils ont des cellules dormantes qu'ils peuvent activer.
Merci beaucoup, Raphaël Jérusalem, ancien officier des renseignements militaires de Tsahal, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée à vous, à très bientôt.